Bonjour à toutes et à tous. J'ai le grand honneur de vous présenter notre invité pour cette leçon inaugurale de rentrée, Antoine Picon. Cher Antoine, c'est un grand plaisir de te retrouver ce matin dans cet amphithéâtre CACO où tu as enseigné pendant de longues années. Je pense en particulier au cours technique ingénieur société, qui a été très apprécié des élèves de première année et qui, heureusement, est désormais accessible sur la chaîne de l'école. Nous sommes un certain nombre à très bien te connaître, mais je vais dire quelques mots de présentation à l'attention de nos jeunes élèves. Tu as une culture et une formation très larges puisque tu es diplômé de l'École Polytechnique, diplômé de l'École des Ponts, architecte, docteur en histoire. Tu es professeur et directeur de recherche à l'École des Ponts, professeur à la Graduate School of Design de l'Université Harvard. À la fois historien de l'architecture et historien des sciences et techniques, tu as toujours été intéressé par les mutations de l'architecture et de l'ingénierie. Tu as écrit une histoire des ingénieurs des ponts. Tu as une attention particulière sur les relations de l'architecture et de la ville avec les savoirs techniques et scientifiques. Tu as beaucoup écrit et tes ouvrages sont actuellement en présentation à la source dans les vitrines. Le titre que tu proposes pour cette leçon inaugurale, « L'ingénieur peut-il encore inventer l'avenir ?» me semble extrêmement approprié au moment où nos élèves, sur le seuil de leurs études dans cette école, commencent à se projeter sur leur métier d'ingénieur. Je voudrais exprimer tous les remerciements de l'école pour avoir accepté notre invitation à prononcer cette leçon inaugurale. Et nous sommes très impatients de t'écouter. Et sans plus attendre, je te laisse la parole. Merci.
Tout d'abord, merci François, merci à Sophie, merci à vous tous de m'écouter. C'est un grand plaisir d'être ici. Je suis totalement impressionné parce que j'ai toujours fait d'habitude cours dans la moitié de l'amphi, donc avoir comme ça tout l'amphi, c'était impressionnant. Alors j'ai pris un titre qui au moins vous réveillera, ensuite on verra, hein. C'est long une conférence. Les journaux parlent beaucoup ces derniers temps, ça n'a pas dû vous échapper, des incertitudes de certains diplômés des grandes écoles d'ingénieurs devant le décalage qu'ils perçoivent entre les défis d'aujourd'hui, la crise climatique notamment, et le métier d'ingénieur tel qu'il se l'imagine. Alors j'ai pris, et j'aurais pu en prendre d'autres, cet article du Monde paru au printemps dernier, « Une perte de sens totale, le malaise grandissant des jeunes ingénieurs face au climat ». Alors, il y a effectivement, il y a tout de même une part d'exagération dans cette affaire, c'est-à-dire, vous avez dû entendre aussi parler des quelques diplômés qui ont refusé leur diplôme le jour de la graduation, etc. Je vous conseille pas quand même, c'est d'un point de vue pratique pas forcément une bonne idée. Mais bon, on verra, vous avez encore quelques années pour vous décider. Je dirais, il y a de l'exagération parce qu'on est en fait dans une période pleine de contradictions. Et je reviendrai fréquemment là-dessus. Il ne vous a pas échappé que d'un côté, on parle beaucoup du climat, il a fait très chaud, il y a toutes sortes de catastrophes climatiques, et de l'autre côté, on remet en marche les centrales à charbon, etc. Donc, on est en pleine contradiction. Cela dit, je crois que c'est à peu près indéniable que le métier d'ingénieur ne pourra plus être exercé dans les décennies qui viennent, de la façon dont il l'a été pendant longtemps, ne serait-ce que parce que les attitudes face à la technique ont profondément changé. C'est de ça un peu dont je voudrais parler aujourd'hui. L'idée que le changement technique, c'est nécessairement une bonne chose, est de plus en plus remise en cause. Est-ce que le changement technique constitue un progrès? Je dirais la notion de progrès appliquée aux techniques, là aussi, est souvent critiquée. Alors, c'est un peu embêtant pour les ingénieurs, parce que depuis le XVIIIe siècle au moins, L'ingénieur s'était approprié cette notion de progrès, un progrès qui se voulait à la fois technique et social. Du coup, d'ailleurs, l'ingénieur se voulait... Il y a un problème... Ah, merci pour la bouteille. Oui, c'est au cas où j'ai la gorge sèche. Du coup, l'ingénieur se voulait quelqu'un qui allait améliorer les choses, se voulait porteur d'un avenir qui allait être meilleur que le présent. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque cette conviction entre en crise? C'est pour ça que j'ai choisi le titre un peu provocateur « Est-ce que l'ingénieur peut encore inventer l'avenir ?» Alors, c'est un vaste sujet que je n'ai pas la prétention de traiter exhaustivement, j'aurais plutôt soulevé quelques questions. Je dirais de plus, l'ingénierie, c'est un monde qui compte d'innombrables branches et spécialités. Alors je me limiterai aujourd'hui, alors vous allez souffrir un peu par moment, mais à un domaine que je connais un peu mieux que les autres, celui de la conception des structures de génie civil et d'aménagement, disons bon, les ponts, les tours, les choses comme ça. Et puis je parlerai aussi quand même de temps en temps des grands systèmes territoriaux, les réseaux par exemple. Donc ça fait partie des domaines traditionnels de l'école. L'idée c'est en fait de servir de ces domaines pour essayer de poser des questions plus générales. Parce qu'évidemment, la question de, finalement, l'ingénieur peut-il inventer l'avenir, c'est une question qui se pose de l'aéronautique à la science des matériaux, mais on ne peut pas parler de tout. Et donc, je vais essayer de partir plutôt, en général, de la science des structures, du dessin, des ponts, des tours, etc., pour essayer d'articuler quelques réflexions. Alors, il y a un moment, peut-être, vous allez un peu souffrir, parce que ça sera peut-être un peu philosophique, mais j'ai toujours considéré que les premières années de l'école des ponts étaient des gens extrêmement brillants. Donc, soyez patients. Alors, peut-être un peu un mot sur, comme on disait après 68, d'où je parle. Je ne suis pas un technophobe, ça va pas vous... donc je ne pense pas que les techniques c'est tout mauvais. Je ne suis pas non plus un technophile débridé qui pense que parce que c'est un ingénieur qui l'a dessiné, c'est forcément bien. Mais je continue, je crois, à croire que la technique c'est une composante importante de l'avenir. Donc je vous rassure tout de suite, oui, je pense que les ingénieurs peuvent continuer à inventer l'avenir, mais il y a des conditions à cela, et c'est de cela un peu dont je voudrais parler. Ça veut dire aussi que le progrès, on peut continuer à y croire, mais il faut probablement redéfinir de quoi on parle. Alors, ce que je vais vous proposer, finalement, c'est donc un ensemble de réflexions sur ces questions qui sont quand même assez difficiles et qui ne vont pas vous quitter pendant toute votre scolarité, parce que les historiens sont mauvais en général pour faire des prophéties, mais je pense que dans 3 ans, on parlera toujours du changement climatique et d'autres problèmes de ce genre. Alors, ce que je vais vous proposer est aussi nourri de travaux d'histoire. Enfin, j'ai fait sur beaucoup d'histoire, des techniques, de l'architecture, etc. L'histoire, c'est pas une discipline qui se complaît dans le passé for the sake of good old times, pour un peu dans la nostalgie de tout ce qui était bien avant. C'est au contraire une discipline qui parle du changement. Et je dirais ce que je voudrais essayer, peut-être de ce dont je voudrais essayer de parler, c'est de la nécessité de changer aujourd'hui. Un célèbre historien, Marc Bloch, disait que l'histoire doit donner le sens impérieux du changement. C'est un peu de ça dont il s'agit. Alors, commençons donc un peu par parler de mes fameuses structures, etc. Depuis le XVIIIe siècle au moins, j'ai fait pas mal de travaux autrefois pour essayer de montrer que la figure de l'ingénieur telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui s'invente au siècle des Lumières, donc disons un peu avant la révolution industrielle, au moment des révolutions politiques et sociales qui font entrer un certain nombre de sociétés dans des états un peu plus proches de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors depuis le XVIIIe siècle au moins, je dirais la conception et la réalisation de structures audacieuses, des routes, des ponts, des canaux, etc., plus tard des chemins de fer, a fait partie des domaines où l'avenir semblait se découvrir sous des couleurs résolument optimistes. Par exemple, le pont de Brooklyn, commencé dans les années 1860, terminé dans les années 1880, c'est en fait à l'époque un manifeste de la jeune Amérique qui veut affirmer sa puissance montante face au monde. L'ingénieur d'ailleurs John Roebling, c'est un immigré de fraîche date d'Allemagne, et en fait c'est un pont qui veut célébrer l'avenir. À l'époque d'ailleurs, les tours du pont sont les plus hautes structures de New York. Alors c'est quelque chose plus vite, plus haut, plus fort, plus léger. Ces impératifs étaient censés pendant longtemps incarner une ère de prospérité sans limite. Et d'ailleurs, l'ingénierie, ça échappait au clivage idéologique ordinaire. Au XXe siècle, par exemple, en même temps que vous aviez l'opposition entre l'Ouest et l'Est, eh bien, à l'Est aussi, les régimes communistes célébraient les prouesses d'ingénierie. Juste un petit exemple, ici, c'est la tour de radio de Moscou du début des années 20, qui est une des grandes réalisations de l'ingénierie soviétique à ses tout débuts. Une des premières structures très légères. Alors, cet optimisme, il faut quand même être clair, semble plus être tout à fait de mise aujourd'hui. Alors, d'un côté, les grandes réalisations n'ont pas perdu de leur pouvoir évocateur. Les tours et les ponts continuent à battre des records, tandis que certaines structures légères semblent encore plus immatérielles que la tour de Moscou. Je dirais, par exemple, vous avez sans doute tous entendu parler de la tour Burj Khalifa de Dubaï, qui atteint à peu près ses 830 mètres, grosso modo. Ça faisait à peu près une quinzaine d'années qu'on savait que le kilomètre était atteignable en hauteur de tour. Et il y a actuellement, en Arabie Saoudite, un projet de tour, alors on ne sait pas s'il va être terminé, mais qui se propose de dépasser le kilomètre. Donc, on vit dans ce monde-là, en même temps. On vit aussi dans un monde dans lequel les structures légères, ça c'est ce qu'on appelle une structure en tenségrité, structure extrêmement légère, sont aussi plus performante que jamais. C'est un pont en Australie, à Brisbane. Mais en même temps, toutes ces réalisations sont loin de faire l'unanimité. L'accélération du changement climatique, la prise de distance face à ce qu'on a appelé un moment le monde d'avant, même si en fait le monde d'après, pour l'instant, d'après la crise, ressemble beaucoup au monde d'avant, ont quand même provoqué pas mal de critiques. Faut-il construire ? Faut-il chercher à tout prix la performance? Faut-il continuer à artificialiser la planète? C'est des questions que tout le monde se pose un peu. Vous avez peut-être lu dans les journaux, il y a par exemple en France une loi qui vous impose la zéro artificialisation nette, l'idée qu'il ne faut pas bétonner la planète, si vous voulez, que tout ça, ce n'est pas forcément bien. Alors, à une autre échelle, ça s'applique aussi aux réseaux. Alors, je ne parlerai pas beaucoup des réseaux, mais je voulais en dire un mot, aux grands systèmes techniques territoriaux conçus par les ingénieurs. Et cette maison a été historiquement une des maisons où s'est développée la notion moderne de réseau. Par exemple, il y a toujours une aile Belgrand ici. Belgrand, c'est le monsieur qui a fait les égouts et l'adduction d'eau moderne de Paris sous le Second Empire. Là, vous avez la carte des eaux de Paris à la fin du XIXe siècle. Des kilomètres et des kilomètres de canalisation, de captation d'eau, etc. Donc, ça, c'était la modernité. Et quand vous ouvrez votre robinet et vous attendez à avoir de l'eau, c'est parce qu'il y a eu tout cet important travail. Or, là aussi, la notion est aujourd'hui pleine de chausse-trappes. C'est devenu assez compliqué. Parce que d'un côté, bon, bah, quand vous avez toujours envie, quand vous ouvrez le robinet, d'avoir de l'eau, de l'autre côté, on sait que les grands réseaux, ça pose une série de problèmes. Par exemple, ils peuvent avoir des effets catastrophiques. La Seine, tous les poissons ont été tués un certain nombre de fois, là c'est Rio de Janeiro, mais par des problèmes de réseau après les orages. Alors c'est réglé depuis, mais je dirais les grands réseaux provoquent parfois des catastrophes. Plus généralement, ils participent d'un arraisonnement généralisé des ressources de la planète. Alors là, je dois dire, j'ai résisté à être un peu putassier et vous montrer la planète Coruscant, Star Wars. Vous avez des gens aujourd'hui qui disent, finalement, on est en train de rentrer dans un monde dans lequel toute la planète est urbanisée. Et là où il n'y a pas, vous croyez qu'il n'y a pas de ville, il y a des pipelines, il y a des réseaux, il y a des etc. Donc on a en fait urbanisé toute la planète. On extrait partout des choses de façon assez violente. Vous avez aujourd'hui toute une série de gens qui critiquent la violence des processus d'extraction, etc. Et les réseaux, ben, ça participe quand même de cet univers. Du coup, Là aussi, vous avez, de même que vous avez un désir de proximité pour la nourriture, etc., vous avez des gens qui disent qu'il faudrait avoir des réseaux plus proches, plus solidaires, je dirais, des différents rythmes biologiques, etc. Et vous avez des gens, par exemple, c'est ce qu'on appelle le modèle de Hammarby, c'est un écoquartier à Stockholm, dans lequel on recycle localement une partie des choses au lieu d'avoir des grands systèmes sur la grande échelle. Donc tout ça pour dire que de la conception des structures à celle des grands systèmes territoriaux, la question finalement de l'adaptation de l'ingénierie, c'est une question qui se pose et c'est une question pas simple. Alors encore une fois, je prends ces domaines un peu comme emblématiques de questions plus générales, c'est-à-dire il va falloir quand même se poser des questions sur l'avenir de la technique dans un monde, dans une planète close dont on ne va pas échapper si tôt, au mieux on enverra quelques hommes sur Mars. Dans quelques années, mais contrairement justement à Star Wars, etc., on ne va pas arriver à sauter de planète en planète si aisément que cela. Alors, s'interroger en bref sur l'avenir de l'ingénierie, c'est accepter de se confronter à la question encore impensable il y a quelques années du bien fondé du progrès. Alors, passons maintenant un peu à la figure de l'ingénieur dans tout ça. La remise en cause de l'idée de progrès, ça va de pair avec la montée en puissance d'interrogations concernant la figure de l'ingénieur. Alors traditionnellement, l'ingénieur, c'était une figure qui avait un côté un peu héroïque. L'ingénieur, c'était par exemple le mec un peu balèze comme ça. Messieurs, comparez votre musculature. Alors, il lui était quand même arrivé quelques ennuis à cette figure un peu de l'ingénieur héroïque, mais enfin, qui n'était pas complètement éloigné de la réalité. Au XVIIIe siècle, vous n'auriez pas pu rentrer à l'école des ponts si vous ne saviez pas monter à cheval. Pour une raison simple, d'ailleurs, c'est que c'était le seul mode de transport pour aller visiter les chantiers. Donc quand même, bon. Alors, il est arrivé toute une série de choses. Par exemple, l'ingénierie, qui était une des professions les moins féminisées au monde, s'est féminisée. C'est pas encore grandiose, mais on est en progrès. Alors, pouvez-vous demander pourquoi cette dame est en train de porter ce poster? C'est qu'il y a quelques années de ça, il y avait eu une charmante jeune ingénieure qu'on avait figurée sur la publicité d'une entreprise, et comme elle était super mimi, il y avait plein de grosses remarques lourdes et sexistes du genre « Non, c'est pas l'ingénieur, c'est la secrétaire, etc. » Et du coup, ça avait déclenché une véritable bronca des femmes ingénieures, et j'ai quelque chose comme 100 photos postées à l'époque de toutes sortes de femmes ingénieures. Celle-là, en plus, aime le rose. Mais ça, c'était là aussi petite provocation à l'époque. Mais tout ça pour dire qu'en fait, bon, les choses ont commandé à rien changer. Mais on est, puis on en a une directrice. Mais c'est encore loin. C'est d'ailleurs par, au passage, beaucoup de gens aujourd'hui. Parmi les spécialistes un peu que déteste Michel Delara des sciences sociales, défendent l'idée que quand même on a été pendant très longtemps dans une technique à dominante masculine et que la féminisation, je dirais, des métiers techniques commence à changer un peu l'attitude face aux techniques. Alors, l'ingénieur, figure de progrès, figure héroïque, c'était aussi lié au fait que l'ingénierie s'était vue comme un espèce de combat contre la nature. Combat contre la nature, avec même des espèces de connotations sublimes, ça c'est la construction d'un viaduc à la fin du 19e siècle, vous voyez, à un métier pour des vrais hommes, tout ce genre de discours, et avec l'idée d'une espèce de sublimité des œuvres de l'ingénieur, parce qu'en fait il fallait se battre contre les eaux, se battre contre les éléments, etc., etc. Alors évidemment, tout ça c'est en crise complète. C'est qu'aujourd'hui, l'idée qu'il faut se battre contre la nature et la violenter le plus possible, eh ben, ça fait partie des idées avec lesquelles les gens sont de moins en moins convaincus. Alors, ça a des conséquences assez profondes. Ce changement d'orientation va de pair avec l'idée qu'autrefois, l'ingénieur, c'était quelqu'un qui fabriquait des choses essentiellement artificielles. Il mettait des objets dans un cadre naturel, des routes, des ponts, etc., qui étaient censés résister aux chocs, aux ébranlements liés aux éléments naturels. Aujourd'hui, il y a plutôt dans l'idée qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui doit composer avec la nature, que ça n'a pas de sens de lutter totalement contre la nature. Il faut composer avec la nature, il faut en fait utiliser parfois la nature, etc. Du coup, bah, si par exemple vous faites des barrages, vous allez avoir des échelles à poissons, comme ici, vous allez avoir toute une série de choses qui en fait vous disent quoi au fond ? C'est qu'en fait l'avenir dans l'ingénierie, c'est plus un combat, c'est une négociation de tous les instants avec les éléments naturels et des éléments naturels qu'il faut respecter. Et ça, c'est relativement nouveau. Alors, ça va de pair aussi avec une autre idée qui est en train de se développer, c'est que les éléments naturels eux-mêmes, ça peut être considéré parfois comme des ressources de l'ingénierie, et vous, comme presque des infrastructures. Et vous avez des gens aujourd'hui, par exemple, il y a tout un débat aux États-Unis sur la protection des villes côtières, dans laquelle vous avez d'un côté des gens qui disent qu'il faut faire des grandes digues en béton traditionnelles devant la montée des eaux, et d'autres qui disent qu'il faut plutôt essayer de fabriquer des zones humides et de réinventer des zones humides pour protéger. Alors pas complètement évidemment, il faut accepter aussi qu'il y aura quand même une montée des eaux et des inondations périodiques, mais pour atténuer le choc, les chocs liés à la montée des eaux. Donc vous voyez, toute une série de changements assez profonds de finalement ce peuvent se proposer les ingénieurs. Alors, en amont de ça, il y a aussi des changements dans le statut même des connaissances véhiculées par les ingénieurs. Et là, ça va vous paraître au début un peu plus abstrait, mais en fait, je pense que c'est peut-être encore plus fondamental. C'est-à-dire que, en fait, la nature même, finalement, des savoirs d'ingénieurs sont en train, ou leur statut est en train d'évoluer. Alors, traditionnellement, là aussi, l'idée, c'était que l'ingénieur, c'est le gars qui est chargé d'arraisonner les ressources naturelles, la puissance, par exemple, motrice de l'eau, du vent, etc., en s'appuyant sur ses conceptions scientifiques. En d'autres termes, l'ingénieur, c'était la personne qui était chargée de convertir les connaissances scientifiques relatives au monde physique en usage humain. Alors, il y avait trois a priori derrière ça. Alors le premier, c'était que la nature, c'est complètement distinct du monde des humains. Ça n'a rien à voir. Il y a d'un côté les choses naturelles et de l'autre côté les objets artificiels. C'est ce que je vous ai dit déjà. L'ingénieur, c'était quelqu'un qui fabriquait des choses artificielles. Deuxième idée, là je sens que Michel va être révulsé, la nature, la science, c'était censé dire la vérité à propos de la nature. Et du coup, il y avait une espèce d'autorité de la science, parce qu'elle était complètement déconnectée du politique et du social. Et puis, dernière idée, c'est qu'entre la science pure, en fait, à l'école des ponts, on ne faisait pas de la science pure, on faisait quelque chose de très particulier, qui était entre la science pure et les techniques, il y avait une zone un peu intermédiaire de savoir, qu'on appelait des sciences appliquées, et en fait, qui faisait transition entre ce que faisaient les savants dans leur laboratoire et ce qu'on faisait sur les chantiers. Et l'ingénieur, c'était l'homme des sciences appliquées. Par exemple, on faisait de la résistance des matériaux, qui est entre la mécanique pure et la construction, etc., etc. Alors, tout ça, c'est un peu en train de rentrer en crise. Alors, soyons clairs, je ne fais pas partie des gens qui pensent que la science est entièrement relative, etc., mais il est clair qu'on est plus sensible aujourd'hui au fait que la science, elle est produite dans un contexte social, et que du coup, je dirais, elle est produite dans un contexte social, et puis aussi que la science, c'est quand même un vaste bricolage. La science, c'est un truc dans lequel on bricole avec des éprouvettes, on bricole des choses. Du coup, la science n'est plus quelque chose de splendidement isolé, ça apparaît comme un ensemble assez complexe de pratiques, pas forcément si loin que ça des techniques, destinées à stabiliser les phénomènes, à essayer de les comprendre, etc. Du coup, la science elle-même aujourd'hui sépare de moins en moins le monde de la nature du monde des choses artificielles, c'est des choses qui ont un peu perdu de leur science, de leur statut. Alors, conséquence de tout ça aussi, la science ne peut plus dire qu'elle est complètement séparée de la société. Alors, même si elle le pense, même si elle pense qu'elle a la vérité, etc., ça ne marche plus comme ça. Prenez la controverse sur les vaccins. C'est tout à fait typique. C'est-à-dire que vous avez beau avoir la plus belle science du monde, si la société n'embraye pas, il y a quelque chose qui ne marche pas très profondément. Je dirais, la science et le social, c'est des choses qui sont devenues difficiles à séparer, etc. Du coup, ça a un certain nombre de conséquences sur l'ingénieur. Comme je le disais au départ, l'ingénieur, c'est plus la personne qui peut se réclamer de « moi, je m'occupe de trucs artificiels », c'est devenu beaucoup plus compliqué. Il faut finalement bricoler des choses qui sont des hybrides de nature et de technologie. Les projets de l'ingénieur, alors ça, c'est peut-être la conséquence principale. On ne va pas vous attendre dans le corps social pour que vous expliquiez de haut, avec un certain côté arrogant, ce qu'il faut faire. Et il va falloir convaincre, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous réclamer de l'impartialité de la science, un peu comme les médecins, par exemple, ont réalisé qu'il ne suffisait plus d'arriver et de dire « je suis médecin ». Il faut convaincre les gens, et ce n'est pas simple, et les conneries volent parfois assez bas, etc., etc. Ce qui veut dire que vous allez être obligé de rentrer dans des controverses politiques et sociales, parfois assez compliquées. Et ça explique, par exemple, alors oui, bon, ça, je passe là-dessus, ça explique, c'était un laboratoire d'MIT pour montrer, du MIT pour montrer l'idée d'application, mais je voulais plus en venir à cette image-là, qui est quand même sur le fait qu'il y a des controverses aujourd'hui, qu'une infrastructure comme un aéroport, c'est pas forcément considéré comme bien par tout le monde, c'est une des innombrables manifestations provoqué par le projet de Notre-Dame-des-Landes, de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, on est rentré, pour le meilleur et pour le pire, dans un univers dans lequel, je dirais, la parole d'ingénieur ne fait plus forcément foi. Il faut convaincre, il faut négocier, etc. Alors, il y a des choses plus subtiles, maintenant. Je parlais d'application. Bon, ça, c'était de la science appliquée à MIT, par exemple, à la fin du 19e siècle, une des premières institutions qui a des grands laboratoires, etc. Alors, aujourd'hui, je dirais, il y a un truc très particulier qui est en train de se passer, c'est que la science, en fait, s'est énormément rapprochée des applications dans une série de domaines clés. Prenez la biologie, par exemple, on peut sauter beaucoup plus facilement qu'autrefois de la science aux applications. Je dirais, il y a aussi des outils parfois qui semblent court-circuiter les métiers traditionnels, prenez l'impression 3D, etc., comme si finalement, est-ce qu'on a encore besoin de cette figure intermédiaire qui était l'ingénieur entre la science et les débouchés industriels? Alors je vous rassure, j'ai tendance à penser que oui, mais vous avez, de par le monde par exemple, des tas de formations qui se multiplient, qui sont plutôt des formations de science destinées à aller directement vers des débouchés pratiques. Et donc, ces questions se posent aujourd'hui plus qu'avant. Ça va jusqu'à présent? Personne n'est perdu? Personne n'est en train de lire de façon compulsive ces messages? Alors là, on va rentrer dans le moment difficile, et puis ensuite, on s'écoulera comme un fleuve vers la fin de cette conférence. Ça, c'est le moment qui va être un peu dur pour vous, parce que vous n'avez à peu près aucune idée de ce que c'est que les structures, etc. Mais je vais vous obliger à y réfléchir un peu, parce que je trouve que ce qui est en train de leur arriver à la pensée structurelle telle que l'avaient développée les ingénieurs, c'est assez symptomatique d'une évolution générale aujourd'hui de la culture technique. Alors j'ai appelé ça, histoire de vous faire peur, incertitude structurelle et conditions postmodernes. Rien que ça, déjà, ça fait peur. Bien. Alors, historiquement, je vous avais dit que j'étais historien, historiquement, les ingénieurs, c'est pas apparu dans le domaine de l'automobile, pour des raisons simples, il n'y avait pas d'automobile à la Renaissance. En fait, c'est apparu dans des domaines qui étaient plutôt la construction, le génie civil, etc., militaire ou civil. Mais c'était plutôt les domaines, puis bon, il y avait l'artillerie, etc. Mais la construction, le génie civil, etc., ça a pendant très longtemps constitué, je dirais, le continent principal de l'ingénierie. En France, par exemple, le premier corps d'ingénieurs, le corps des ponts et chaussées, créé en 1716, il est créé pour construire des routes, des ponts, des canaux. Ça, c'est un célèbre tableau. Vous avez l'ingénieur sur son petit cheval, encore qu'on discute aujourd'hui beaucoup entre spécialistes pour savoir si c'est vraiment un ingénieur, mais on ne va pas rentrer dans ces détails subtils. En tout cas, vous voyez le gars, là, il est en train de regarder. On construit une route, un pont. Un ingénieur, c'est un gars qui s'occupe de conception d'ouvrages, que ça peut être des bâtiments, des ponts, des canaux, etc. Bon, alors c'est pas vrai qu'en France, c'est vrai dans des tas d'endroits. En Angleterre, par exemple, il n'y a pas de corps d'ingénieur d'État comme en France, etc. La profession se constitue plutôt dans un cadre privé et avec la création d'associations professionnelles. Et la première grande association qui va donner le tempo, c'est en fait l'Institution of Civil Engineers, qui est créé donc ingénieur civil, qui est créé en 1818. Et voilà le tableau des pères fondateurs de l'institution. Et vous pouvez voir, au fond, il y a un pont, au cas où vous n'ayez pas compris qu'en fait, c'est ça, quand même, le gros du business. Et puis, vous voyez, en fait, la plupart des gars qui sont là, il y a un gars qui s'appelle Telford, un autre qui s'appelle Stephenson, etc. C'est des gens qui vont quand même surtout du génie civil, même si Stephenson, par exemple, ça va être aussi un des pionniers des locomotives tubulaires, mais on ne va pas rentrer dans les locomotives tubulaires. Très intéressant, néanmoins. Passons là-dessus, mais tout ça pour dire que pendant longtemps, un ingénieur, c'est quelqu'un qui fait ce genre de choses. Mais avec un peu un paradoxe, c'est que pendant longtemps aussi, on ne s'est pas très bien départagé entre ce qui est technique et ce qui est moins technique. L'idée moderne de structure, c'est-à-dire l'ingénieur, c'est un gars qui s'occupe de calculer ou passe les efforts, etc. Il y a une espèce de dimension purement technique dans les ouvrages, et ensuite il y a ce qui serait plus de l'ordre de l'apparence, des proportions, de la décoration. Bah, c'est pas très clair. Alors du coup, par exemple, alors c'est en fait l'une des raisons pour lesquelles je dis souvent que c'est à partir du XVIIIe siècle que s'opère vraiment la scission d'avec, par exemple, le monde de l'architecture qui va conduire à l'ingénierie moderne, c'est parce qu'on va commencer, en fait, à se dire qu'il y a des problèmes spécifiquement d'ingénieurs, comme, par exemple, ce qu'on va appeler, à partir d'un certain moment, le calcul des structures, qui sera moins géométrique. Ça, vous n'êtes pas pétri d'émotion devant ça. C'est le premier essai de théorisation moderne de la rupture des voûtes par Charles-Augustin Coulon. C'est le même que celui de la charge d'électricité, mais qui s'est aussi beaucoup intéressé. Il était ingénieur militaire. Donc Coulon, il a fait de l'électricité pendant ses week-ends. La semaine, il faisait des fortifications, s'intéressait au calcul des voûtes, etc. Et bon, c'est ce qu'on appelle un formalisme variationnel, ça prélude de peu à l'arrivée du calcul infinitésimal pour calculer les ouvrages. Bon, je vous avais dit que je vous emmerderais, donc je ne vous mens pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant très longtemps, le côté artistique et le côté technique, ce n'était pas facile à départager. Brunelleschi, par exemple, quand il construit la coupole de Florence, c'est un grand chef-d'œuvre technique parce qu'il n'échafaude pas depuis le sol. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc, il construit son truc de façon à ce que toutes les assises soient en équilibre jusqu'au sommet, sans échafaudage. Mais on ne sait pas très bien si c'est un architecte, un ingénieur, etc. Parce qu'en fait, la beauté, la proportion, etc., c'est aussi important que le fait que le truc tienne debout. Et pendant longtemps, je dirais des questions comme l'élégance des proportions, la finesse des ornements, etc., c'est considéré comme au moins aussi important que la technique. Alors, à partir du XVIIIe siècle, va naître progressivement l'idée qu'il y a une dimension particulière des édifices, des ouvrages d'art, etc., qui est structurelle, qui est une question de compréhension de la façon dont les efforts circulent dans la matière, de calcul, de modélisation, etc. Et progressivement, ça va être les ingénieurs qui vont s'occuper de ça. Alors quand je disais que c'est symptomatique d'une évolution plus générale, c'est au XVIIIe siècle aussi qu'on commence à départager ce qui serait de l'ordre de vraiment des techniques de ce qui serait de l'ordre des arts. Et on parle encore au XVIIIe siècle des arts utiles, qui englobe les techniques, mais d'autres choses dedans. Dans arts et métiers aujourd'hui, en fait, art renvoie encore un peu à cette conception-là. Au moment où on crée l'école, on est encore dans cette période. Alors, quelque chose qui va beaucoup marquer, les gens vont redécouvrir au XVIIIe siècle le gothique et se dire, punaise, le gothique, c'est sacrément sioux. Et notamment, par exemple, l'une des raisons pour lesquelles les piliers verticaux des églises gothiques sont si minces, c'est parce qu'en fait, on dérive les efforts au moyen des arcs-boutants vers la périphérie de l'édifice. Et donc, en fait, il y a des logiques structurelles qui ne sont pas des logiques classiquement architecturales, c'est des logiques de compréhension de comment circulent les efforts. Vous me suivez toujours ? Bon, super. Alors, en fait, j'ai un peu triché. Là, d'un côté, c'est Beauvais, et de l'autre côté, comme c'était plus joli, j'ai pris les arcs-boutants d'Amiens. Mais ça va fasciner les gens à un tel point que, par exemple, un édifice devant lequel vous êtes peut-être passé à Paris, qui est le Panthéon, ben le Panthéon, on va lui mettre des arcs-boutants. Parce qu'on essaye de faire des colonnes minces, etc. Il y a des arcs-boutants. Donc en fait, ces questions-là commencent à préoccuper les gens, et derrière ça, finalement, de comprendre et d'organiser le monde en fonction de ces schémas d'intelligibilité qu'on va appeler les structures. Alors, à l'époque, c'est le principal domaine dans lequel l'ingénierie moderne se développe, du génie civil à la construction. Et du coup, eh ben, les grandes structures, ça va être quelque chose d'emblématique du progrès social, etc. Et vous avez, par exemple, au XIXe siècle, les grandes structures métalliques, ça c'est la halle aux machines de l'exposition de 1889, un peu, qui est contemporaine de la Tour Eiffel. Et quand vous regardez ici, vous avez un petit bonhomme, ici, sur la figure de droite, vous voyez l'énormité de ce truc, et c'est considéré comme, ça fait partie de l'avenir qu'on invente. L'ingénieur invente l'avenir parce qu'il invente des structures innovantes qui vont plus loin, qui vont plus haut aussi à l'époque de Gustave Eiffel, c'est la même année où on inaugure la tour, etc., etc. Alors, ça va continuer pendant très longtemps avec des séries d'innovations, les structures gonflables, les structures tendues, les membranes, etc., etc. Mais je dirais que le XXe siècle, et c'est là-dessus que je voudrais vous faire réfléchir un peu, marque à la fois une espèce de triomphe de la pensée structurelle, et puis aussi le début de doute sur le fait, est-ce qu'on peut vraiment penser le monde avec ce type d'outils, qui était typiquement le type de dimension dont s'occupait l'ingénieur. Alors, ça tient, et je dirais aujourd'hui, la notion de structure, alors répétez pas à Bernard Baudeville, pour ceux qui feront génie civil, la notion de structure, c'est une notion qui est devenue plus complexe à manipuler qu'autrefois. Alors derrière ça, il y a un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de choses. Il y a encore une fois, je dirais, espèce de doute, où est-ce que tout ça nous a conduit? On a construit des choses de plus en plus performantes, de plus en plus énormes. Moi, je suis par exemple contemporain d'une période où les bâtiments sont devenus aussi grands que les villes. Ça, par exemple, c'est le dernier terminal de Pékin. Etc. On est à des échelles de bâtiments qui sont grands comme des villes. Et c'est pas fini. Par rapport à la crise climatique, etc., quel est le sens de toute cette affaire? Si on remet en cause les avions, il faut peut-être se poser quelques questions sur le gigantisme des aéroports. Donc ça, c'est une première chose. Avec aussi l'idée quand même que c'est très beau de dire voilà une structure performance et tout, mais quid de l'énergie grise? Qu'est-ce qu'il a fallu comme CO2 pour fabriquer ces choses-là? Alors, dans le domaine de la conception des édifices, pour restreindre un peu, vous avez eu d'autres éléments. Alors, je ne vais pas rentrer dedans trop longuement, mais vous avez eu d'autres éléments qui ont conduit à relativiser un peu l'importance de la pensée des structures par rapport à d'autres types de pensées. Par exemple, le développement, certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous manipuleront ce genre de logiciel, le développement de ce qu'on appelle la conception paramétrique, dans laquelle au lieu de raisonner en termes de parties d'ouvrage, vous allez plutôt raisonner en termes de liaison logique entre des problèmes de conception. Et le numérique a joué un rôle, je dirais, dans l'affaiblissement de la pensée structurelle. Mais il y a d'autres facteurs beaucoup plus proches de vous. Par exemple, le fait que la structure, c'était un peu finalement l'équivalent de l'ossature, c'était plutôt une pensée de l'ossature. Vous avez des gens aujourd'hui qui disent, un de mes collègues architectes, Philippe Rame, qui dit finalement aujourd'hui, les descentes de charge, c'est peut-être moins important que les gradients de température et d'humidité. Et c'est vrai que comme il va faire très chaud un nombre de jours importants dans l'avenir, le confort thermique, les questions thermiques, elles sont peut-être en train de devenir plus importantes que les questions traditionnelles d'ossature. Ça, c'est une illustration sur... Alors, Philippe Rame fait partie des gens aussi qui dit, en fait, il ne fait pas la même température dans toutes les pièces du logement, et donc il faut dessiner avec les températures et les degrés d'humidité, et pas uniquement en mettant des poteaux et des poutres, si vous voulez. Alors, ça renvoie à d'autres choses aussi, qui est finalement, du coup, une espèce de pensée de l'enveloppe, de la peau. C'est comme si on passait du squelette à la peau. et avec finalement une espèce d'obsession sur les effets de paroi, les effets, etc. Et vous savez, bon, pour ceux qui, s'il y en a qui s'intéressent aux bâtiments, les questions d'échange thermique à la périphérie des édifices, c'est devenu souvent beaucoup plus déterminant que le calcul traditionnel des structures. Et du coup, d'ailleurs, ben, vous avez des pans entiers de l'architecture aujourd'hui qui s'occupent d'ornementer les parois. Et vous avez eu, bon, j'ai écrit un livre là-dessus il y a quelques années, un espèce de retour de l'ornementation de façade qui est assez saisissant. Ça, c'est une architecte tout à fait rationnelle et tout, anglaise, qui a dessiné ce truc-là, et dans laquelle elle explique finalement aujourd'hui, l'architecte, c'est le gars très souvent qui s'occupe de la paroi, etc. Donc, vous voyez, toute une série de choses. Alors, il y a des éléments encore plus compliqués sur lesquels je vais passer rapidement, mais traditionnellement, les structures, c'était distinct des matériaux. Aujourd'hui, on rentre dans un monde dans lequel les matériaux et les structures, ça devient un peu indissociable. Ça, c'est un truc de biomécanique. Est-ce que c'est une structure, est-ce que c'est un matériau? En fait, c'est les deux, mon général. Du coup, la notion traditionnelle, elle perd un peu de son sens. Alors tout ça pour dire qu'on rentre dans un univers technique un peu déconcertant. La technique, traditionnellement, ça s'occupait du hard, et il y avait du soft, de la décoration, etc., mais la technique, c'était le hard. Aujourd'hui, en fait, on ne sait plus très bien toujours où est le hard et où est le soft. Un bon exemple pour moi, c'est prenez les plateformes. Vous voyez, sur la gauche, vous avez la technique autrefois. On fait des tuyaux, on fait des... etc. Puis le mec qui décore le robinet, c'est tout de même moins important. C'est l'architecte d'intérieur et l'ingénieur, il pensait quand même, c'est bon, au plus fondamental d'avoir fait le tuyau. Aujourd'hui, avec les plateformes, vous vous rendez compte qu'en fait, Uber, par exemple, il n'y a pas vraiment de tuyaux, il y a des flottes de véhicules, mais qui n'appartiennent pas à Uber. Uber, c'est de la coordination d'offres et de demandes via une plateforme applicative. Donc, en fait, le soft, c'est le vrai hard d'une entreprise comme Uber. Okay ? Alors, pour être quand même plus honnête, la plupart des grandes plateformes mélangent de plus en plus le soft et le hard. Vous prenez Amazon, vous avez encore des trucs extrêmement hard, des entrepôts, etc. Et puis, vous avez une plateforme numérique. Mais vous avez beaucoup d'applications. Prenez Airbnb. Airbnb, c'est infrastructurel à bien des égards. C'est en train de complètement perturber les circuits de location dans les grandes villes. Mais en même temps, c'est pas comme les tuyaux traditionnels. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, on rentre dans un monde technique un peu compliqué dans lequel bah, on ne sait plus très bien où est le soft, où est le hard, où est le truc dont les ingénieurs devraient s'occuper, où est le truc dont ça serait plutôt les commerciaux, etc. C'est devenu très très compliqué. D'où d'ailleurs un truc plutôt rigolo aujourd'hui, vous avez tous les gars des écoles de commerce qui se présentent comme des « makers », etc., comme s'ils étaient ingénieurs. En fait, finalement, faites HEC, c'est comme si vous étiez ingénieur. Enfin, je vous parle en connaissance de cause, ma fille a fait l'EM Lyon, et je vais à la graduation, et je vois « makers ». En gros, je me dis « ah bon, on est à l'école des ponts ?» Eh ben non, on était à l'EM Lyon. Bon, on est dans un univers un peu déconcertant. Alors, c'est là où je vais vous barber. Comment essayer de théoriser ça ? Alors, il y a un monsieur, un philosophe s'appelle Lyotard, qui, à la fin, dans les années 80, écrit ce petit bouquin, qui est un essai. Je ne vous conseille pas de le lire, c'est quand même un peu pas clair par moment, mais quand on arrive à peu près à donner sens au truc, il explique un certain nombre de trucs. Il dit finalement, le discours moderne, qui était un peu celui qui s'était déployé à partir du 18e siècle, c'était un discours dans lequel on savait ce qui était hard, ce qui était soft, on savait ce qui était du dur et du mou, etc. Les choses avaient une espèce de structuration, notez le lien. On savait ce qui était une structure, une infrastructure, etc. On savait lire les choses comme ça, on savait hiérarchiser. Aujourd'hui, on rentre dans un monde dans lequel vous avez des couches qui s'interfacent, dans lesquelles les effets de langage, les effets de codage et de décodage deviennent de plus en plus importants. Une espèce de technique qui devient finalement de plus en plus liés à des codes, des langages, etc. Alors bon, il en tire toute une série de conclusions plus ou moins métaphysiques, mais je dirais peut-être qu'il y a dans l'état de la technique aujourd'hui quelque chose d'assez profondément, à certains égards, postmoderne. Même si dans la dernière partie de cette conférence, je vous préviens tout de suite, je vais essayer de revenir au moderne et de vous proposer d'être moderne de façon différente. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est rentré en crise. Alors, l'une des raisons aussi pour lesquelles je m'intéresse à M. Lyotard, c'est qu'en fait, son rapport, on pourrait croire que ça planait complètement, mais il avait été commandé à l'époque, ce bouquin est issu d'un rapport qu'il avait fait à la demande du gouvernement du Québec, parce qu'à l'époque, dans les fin des années 70, début des années 80, on croyait que l'intelligence artificielle allait se répandre. Et en fait, Lyotard, ce qu'il est en train aussi d'expliquer, c'est que finalement, la technique est en train de se développer dans des domaines, etc. Et vous prenez l'intelligence artificielle, c'est des questions qui ne sont pas classiquement infrastructurelles, c'est des questions de code, de codage, de décodage, de reconnaissance des formes, etc., etc. Alors, à l'époque, l'intelligence artificielle, elle ne s'est pas développée. Mais en tout cas, il est clair, si jamais la diapo veut bien passer, il est clair qu'aujourd'hui, on est en plein là-dedans. On est en plein là-dedans. Et que je dirais, une des questions qui va se poser quand même, c'est quid de toute cette façon traditionnelle d'être ingénieur dans un monde dans lequel le machine learning, etc., ça va être quand même des grandes dimensions. Ce qui a plein de conséquences, même dans mon bon vieux domaine des structures. Vous prenez, pourquoi on avait inventé cette notion de structure? Parce qu'il fallait modéliser dans la tête de l'ingénieur la façon dont les efforts circulent. Vous avez aujourd'hui des machines qui n'ont pas besoin de modèles. Elles calculent où les trucs passent, etc. Et du coup, elles font des choses un peu surprenantes, mais qui sont calculées, etc. Je dirais les schèmes d'intelligibilité, désolé du mot compliqué, les espèces de modèles dont on se sert, nous, humains, pour comprendre des choses très complexes, les machines n'en ont pas forcément besoin, ou parfois même, elles n'ont pas les mêmes trucs dans la tête, si vous voulez. Les machines, finalement, on peut croire qu'elles sont humaines, mais elles rêvent pas exactement des mêmes choses que nous. C'est, je dirais, la crise de la question de la pensée structurelle classique, c'est aussi une crise plus générale de la pensée organisationnelle telle que les humains l'ont conçue pendant longtemps, face à un monde dans lequel vous avez d'autres façons aujourd'hui d'organiser les choses, beaucoup plus dépendantes des machines, etc. Bon, je m'arrête là, et on va s'acheminer vers une conclusion heureuse. Enfin, pas complètement, je vous préviens tout de suite. L'avant-dernière diapo ne va pas vous plaire. Mais, essayons quand même de dire, bon, ok, tout ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce que, bon, il s'agit tous d'aller à HEC, ou éventuellement faire du deep learning? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on est encore une fois dans une période bizarre. Il ne vous a pas quand même échappé que d'un côté, on n'a jamais eu aussi chaud, et encore une fois, de l'autre côté, on réouvre des centrales à charbon à peu près partout sur la planète. Donc, chercher l'erreur est quand même un truc. Prenez mon domaine des structures. Récemment, l'Arabie Saoudite a lancé, je dois d'ailleurs rencontrer les gars qui s'occupent de ce machin-là dans 3 semaines, a lancé ce projet quand même assez délirant d'une espèce de méga-structure de 170 km de long, qui serait une espèce de ville artificielle linéaire. Bon, et ils sont en train de bosser là-dessus. Alors, c'est probable quand même que ça va foirer, mais je vais être très poli, et quand je vais les voir, je vais dire « formidable, les gars », etc. Bon, vous voyez un petit détail, ça va être super sympa. Et tout, 170 km de long, dans un terrain quand même complètement... Une logique, finalement, de super vaisseau spatial. Ça, c'est Neom, donc une ville nouvelle projetée en Arabie Saoudite. Alors, vous avez ça d'un côté. On n'a jamais fait des trucs aussi énormes. C'est comme l'aéroport de Pékin, etc. Et puis, de l'autre côté, vous avez des gens... Ce truc ne marche plus, tiens. Bon, c'est pas grave. Vous avez des gens qui disent, ça c'est une de mes ex-collègues à Harvard qui s'était taillé un franc succès dans une école d'archi et d'urbaniste, etc., en disant, faut arrêter complètement la construction. On arrête, les gars. Stop. On fait plus qu'aménager l'existant, etc. Vous avez des courants extrêmement forts aujourd'hui qui vous disent, et c'est pas complètement saut, il y a des tas de situations dans lesquelles, en fait, il faut pas démolir, il faut réaménager, peut-être qu'il faut arrêter de construire comme des dingues, il y a un vrai problème. Ce qui n'empêche pas, là aussi, par exemple, l'État français, de vouloir démolir la tour INSEE au sud de Paris, etc., et la reconstruire, alors que, en fait, c'est en débat aujourd'hui. Donc, encore une fois, on est dans une période assez contradictoire. Alors, peut-être, Ce n'est pas la solution forcément, mais peut-être qu'on pourrait se demander si quand même tout est à jeter dans l'héritage moderne. Parce que l'héritage moderne, ça n'a pas été uniquement l'héroïsme débridé, les trucs complètement délirants, etc. Il y a aussi une certaine frugalité moderne. Frugalité, c'est le terme à la mode, mais on oublie peut-être certains d'entre vous entendront parler, Jean Prouvé, qui est un architecte ingénieur moderniste, qui a essayé toute sa vie de promouvoir des solutions frugales aux questions de l'habité. Donc pas des trucs démentiels, mais des petites maisons qu'on peut assembler à la main, sans grue, etc. Donc une espèce de frugalité. Même Le Corbusier, qui a en général mauvaise presse, Le Corbusier, en fait, c'était sa maison de campagne, qui était un espèce de cabanon sur la Côte d'Azur, bien situé à la fois. Mais quand même, dans le genre frugalité, il y a peut-être des choses à redécouvrir dans un certain héritage moderne. Alors peut-être que du coup, il y a un avenir à la pensée structurelle quand même, en dépit de l'intelligence artificielle, etc., parce qu'il va falloir quand même économiser les matériaux. Et les structures, c'est quoi au départ? C'est d'essayer d'utiliser moins de matériaux. Les arcs-boutants, c'est plus léger que de faire d'énormes contreforts, etc. Les structures, c'est en fait l'art de disposer des vides. Et vous avez des gens aujourd'hui, par exemple à Zurich, au Polytechnique de Zurich, des gens qui essayent de réinventer les voûtes à l'époque où les matériaux sont devenus chers. Le maître, c'est un gars qui s'appelle Philippe Bloch, qui travaille aussi sur des systèmes de plancher plus légers, utilisant moins de béton que les systèmes traditionnels. Peut-être quand même qu'en des temps où il va falloir économiser l'énergie et les matériaux, la pensée structurelle, elle a encore un intérêt. Peut-être aussi qu'il faut se dire que le gigantesque n'est pas forcément toujours systématiquement mauvais. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il faut construire des tours tout le temps, mais par exemple, la tour Shanghai de Pudong, dans la ville de Shanghai, c'est une tour qui est gigantesque, etc., mais qui n'est pas complètement idiote. Elle utilise sa forme pour limiter pour augmenter la résistance au vent. Elle a aussi, comme beaucoup de tours aujourd'hui, des turbines éoliennes. Il y a tout un courant aujourd'hui pour doter les tours de plus d'autonomie énergétique, etc. Tout ça pour dire que il faut peut-être arrêter de jeter systématiquement le bébé avec l'eau du bain et se dire que dans les techniques, il y a des choses à faire pour améliorer. Les voitures, par exemple, ont colossalement, même les voitures thermiques, ont colossalement progressé en 20 ans. Le problème, évidemment, c'est que du coup, effet économique classique, on les utilise plus. Mais le progrès technique, entre guillemets, a encore des choses à faire. Et prenez le béton. Il faut quand même être honnête, n'en déplaise. Le béton, c'est une catastrophe, il faut quand même être clair du point de vue du bilan CO2, pour l'instant. Mais d'un autre côté, on ne va pas pouvoir se passer du béton pour un certain nombre de choses qui vont des fondations, etc. Même les éoliennes, elles ont souvent des massifs en béton dans leurs fondations. Du coup, il va falloir décarboner le béton. Et vous avez des gens... Alors ça, c'est du décarbonage un peu brutal, grosso modo, on injecte du CO2 dans le béton, mais vous avez aussi aujourd'hui des bétons dans lesquels le clinker, ce qu'on utilise pour fabriquer du béton, est partiellement décarboné. On est en train de faire des progrès. Donc tout ça pour dire que peut-être que la vraie question derrière ça, c'est qu'il faut se débarrasser des discours simplistes. Je crains parfois qu'aujourd'hui, la vraie crise, c'est le noir et blanc. Soit noir, soit blanc. Les solutions peut-être à nos problèmes, c'est des solutions peut-être un peu grises, dans lesquelles, comme le mix énergétique, c'est pas le tout nucléaire ou le tout pas nucléaire, le tout éolien, c'est pas la totale frugalité ou la gabegie qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire actuellement, on a l'impression qu'il y a souvent gabegie ou totale frugalité. Peut-être qu'il faut apprendre à négocier. Prenez la fameuse question de la voiture en ville. C'est vrai que dans le centre de Paris, on peut s'en passer. Si vous êtes dans le grand périurbain, à 15 km du truc le plus proche, et à la fois avec une densité qui n'est pas suffisante pour le transport en commun, peut-être qu'il va falloir apprendre à faire de la voiture partagée, etc. Donc tout ça pour dire, c'est comme aussi un autre exemple, la mondialisation. On ne va pas rapatrier tous les trucs à Limoges. Il faut quand même être clair. On va probablement faire moins de choses en Chine que ce qu'on faisait, peut-être aussi ailleurs qu'en Chine, mais il va falloir, là aussi, négocier, détricoter un peu la mondialisation, mais je dirais que toute une série de choses présuppose la mondialisation. Alors tout ça pour dire que finalement, ce qu'il faut peut-être, à la fois, c'est inventer de nouvelles techniques, et puis aussi changer un peu le logiciel. C'est-à-dire que c'est clair qu'on ne va plus pouvoir faire de l'ingénierie héroïque pour le plaisir de faire de l'ingénierie héroïque. On en fera parfois encore, mais pour de bonnes raisons. Pas juste parce que héroïque, c'est bien. Ce qui a avec un certain nombre de questions qui se posent. Par exemple, question, bon, ça c'est un peu caricatural, mais comment construire avec la nature ? Alors ça, je ne recommande pas ça en exemple, c'est pas de mettre des arbres sur tous les petits balcons, mais ça pose néanmoins une vraie question, c'est comment aujourd'hui on construit avec de la nature, on intègre la nature. La vraie question derrière ça, c'est pas de mettre les arbres sur les balcons, c'est comment le métabolisme de l'immeuble intègre, je dirais, les éléments vivants, etc. D'ailleurs, dans ce cas-là, ils ont eu des problèmes de moustiques, qui est un cas assez typique quand vous mettez plein de plantes sur les balcons, finissez par avoir des moustiques partout. Donc vous voyez, bon, il faut penser le moustique aussi, et pas uniquement la résistance du balcon à la terre nécessaire à ce que l'arbre pousse. Vous voyez, c'est toujours un peu compliqué. Donc, autre chose évidemment, penser dans le temps. Alors ça, et je dirais un temps qui n'est pas le temps habituel des techniques, qui était juste, on va chercher les matériaux, on construit, et puis voilà. Penser d'où viennent les matériaux, l'énergie grise, où vont-ils, comment vous allez désassembler, etc. Ce qui est franchement compliqué. On commence à savoir un peu faire, mais c'est franchement compliqué. Ce qui, du coup, veut dire rompre avec des pratiques. Ça, j'ai un collègue qui a fait un bouquin assez fascinant. Il a pris l'Empire State Building, et puis il a regardé depuis le XVIIIe siècle, le moment où ce truc-là, il y avait un lotissement, il y avait un bout de terrain, sur lequel plus tard allait être construit l'Empire State Building, tout ce qu'on a construit dessus successivement, et qu'est-ce qui est arrivé aux matériaux. Alors, l'histoire... Alors, et il montre aussi qu'en fait, l'Empire State Building à New York, les matériaux viennent d'à peu près toute la planète. Donc, ça, c'est un des schémas. Mais alors, il a montré un truc peut-être encore plus saisissant, c'est qu'avant l'Empire State Building, il y avait un des plus grands hôtels de New York, sur cette parcelle, qui a été démoli. Et alors là, exemple de ce qu'il ne faut plus faire, le livre explique qu'en fait, une fois qu'ils ont démoli, avec les matériaux, ils ne savaient pas trop quoi en faire, ils les ont jetés dans l'océan. Voilà. Bon, il faut peut-être arrêter ça. C'est peut-être pas une bonne idée. Donc, penser avec la nature, penser avec le temps, et un temps qui n'est pas le temps habituel, etc. Garder son enthousiasme, mais un enthousiasme qui n'est pas forcément synonyme d'héroïsme à l'ancienne, tout ça, etc. Penser quand même, bon, toutes ces questions qui sont beaucoup plus compliquées que de dire juste je vais être frugal, etc. Et puis accepter enfin, ça là, ça va peut-être pas vous plaire, bah, que le monde est irrémédiablement souillé. Vous n'allez pas vivre, vous n'allez plus vivre dans une planète qui est clean. Planète, elle est un peu dégueulasse. Quand même être honnête. Alors un bon exemple de ça, c'est un projet que j'aime bien. C'est un parc public qui a été construit sur la plus grande décharge urbaine qui ait jamais existé, qui était Fresh Kills dans Staten Island, qui est une décharge dans laquelle New York a jeté pendant une quarantaine d'années à peu près tous les trucs qui embêtaient la ville. Donc vous avez des dizaines et des dizaines de mètres de déchets. Et là-dessus, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il faut quand même couvrir le truc, donc on va faire un parc public. Mais alors, le parc public, les déchets, ils vont continuer à se tasser, et en plus, ils vont produire des gaz. Donc, du coup, c'est un parc public dans lequel vous avez une espèce de maille élastique, en dessous de l'herbe, du gazon, tout ce que vous voulez, pour que ça se tasse quand même correctement. Et puis, vous avez ces petits trucs sur la droite, qui sont des machins pour évacuer les gaz. Un peu dégueulasse, mais c'est en cours de réalisation. C'est un peu une image de notre planète. Il va falloir apprendre, finalement, à vivre comme ça. Alors, j'ai décidé quand même que ce ne serait pas la dernière image, parce que c'est un peu rude, mais je veux dire, bon, l'ingénierie, ça ne sera plus jamais s'installer dans la pureté d'un beau vallon et de construire un beau pont magnifique, c'est fini. Il va falloir se dire que, très souvent, il y a du déjà-là tout à fait important et accepter ça. Alors, plus optimiste quand même, ça c'est un des beaux parcs urbains, c'est en Allemagne, c'est ce qui reste des usines de la Ruhr. C'est un des grands succès paysagers de ces dernières décennies. Bah, c'est peut-être ça le monde dans lequel vous allez avoir à construire. C'est un monde qui a besoin de progrès techniques, mais plus un progrès technique héroïque, etc. C'est un monde qui a besoin d'idées, d'innovation, d'énergie. C'est un monde dans lequel on ne peut pas avoir que des ingénieurs commerciaux et des gars qui dessinent des plateformes pour prendre, pour essayer de trouver un taxi quand on a trop bu après une soirée. C'est un monde dans lequel il y a besoin de solutions techniques. Il y a des tas de trucs, il faut quand même être clair, sur le développement durable, des tas de trucs, on ne sait pas, et il va falloir savoir dans les années qui viennent. Alors, l'ingénierie peut-elle encore inventer l'avenir ? Ben, vous aurez compris que oui, mais il va falloir accepter que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, et ça a perdu un peu, si vous voulez, le côté aventure vierge, c'est plus le Far West d'autrefois, avec le beau désert autour, etc. Tout est peuplé, partout il y a des traces de l'homme, il va falloir faire avec. Voilà, je vous remercie.
Merci infiniment Antoine pour cette belle et riche conférence qui montre parfaitement la complexité du métier d'ingénieur moderne et qui introduit bien aux enseignements que nous allons proposer à la promotion dès le premier semestre sur un certain nombre de réflexions que tu as mises en avant, qui s'articule aussi très bien avec tout un ensemble de recherches qui sont menées au sein des laboratoires de l'école et qui seront très prochainement présentées. Alors je pense que cela appelle de nombreuses questions et comme dans tes cours, nous allons consacrer maintenant un temps à un débat avec le public que tu affectionnes toujours.
Bonjour.
Oui.
Juste par curiosité, quand vous parliez de machine learning, vous aviez montré une image d'un tableau bleu. Est-ce que vous pouvez préciser un peu ce que c'est ?
Oh ben, c'est des trucs qu'on voit beaucoup aujourd'hui. C'est des espèces de représentations bizarres produites par les machines quand on les fait fonctionner comme ça. Ce qui est d'ailleurs intéressant à ce propos, c'est que en architecture, domaine que je connais particulièrement bien, on a beaucoup glosé ces dernières années sur le fait que les machines, elles allaient remplacer les hommes et tout. Actuellement, on commence à s'en servir beaucoup, de façon un peu bizarre, pour qu'elles produisent des espèces de songes architecturaux qui peuvent inspirer les architectes, en utilisant notamment des programmes dans lesquels vous partez de textes et la machine génère des paysages, des formes, etc. Donc une utilisation à laquelle on n'avait pas du tout songé au départ.
Merci.
Je vous en prie.
Bonjour. Vous aviez dit en conclusion que le gigantisme n'était pas forcément mauvais.
Oui.
Qu'est-ce qui vous fait dire alors que le projet en Arabie Saoudite va probablement ou peut-être échouer ?
Ça, c'est le scepticisme des historiens, mais j'ai accepté quand même de rencontrer cette fine équipe. Enfin, parce qu'ils sont en train actuellement, ce qui à mon avis est complètement pour le buzz médiatique, ils veulent rencontrer des gens pour parler, quoi. Donc je me fais aucune illusion. Parce que 170 mètres de long, 170 kilomètres de long pour une structure, ça fait quand même rudement long. Hein. Bon, si vous voulez, c'est un peu mon côté plouc des fois, mais je me dis, on multiplie quand même les problèmes de catastrophes potentielles. Mais faut voir. Non, le gigantisme, il faut quand même être clair. Par exemple, les fermes éoliennes, il va falloir changer d'échelle à un moment, quand même. Donc, il y a toute une série de domaines dans lesquels, curieusement, si on veut vraiment être sustainable, il va falloir changer d'échelle. Donc, le gigantisme, si vous voulez, c'est très beau, mais on ne va pas sauver la planète, etc., uniquement en pédalant sur des petites machines locales. Donc, il y a tout un problème de ce genre. De la même façon, si vous voulez, la densité urbaine. Si on veut de la densité urbaine, il faut qu'on soit plus haut. Donc, etc. Donc, on efface chaque fois des espèces de contradictions. 170 km, ça me paraît beaucoup. Et puis, avant, il y avait une précédente version, c'est le projet, vous savez, du gars qui, le prince qui gouverne l'Arabie Saoudite d'une main, certes bienveillante, mais pas pour tout le monde. Et avant, il y avait déjà un projet assez délirant, avec même une lune artificielle, etc. Donc, faut voir dans quelle mesure c'est de la com ou pas. Mais enfin, bon, j'ai un certain nombre d'anciens élèves américains qui travaillent sur ce truc. Donc, et puis je pense que, comme toujours, si vous essayez d'imaginer les conditions dans lesquelles un immeuble de 170 km de long peut fonctionner, ou une ville artificielle, ça peut peut-être vous donner des idées pour des projets peut-être de taille un peu plus abordable. Bon, je dirais 5 km, déjà, ça serait quand même pas mal. Hein, vous voyez ? Bon, 170 km, bon, mais peut-être que j'ai tort, hein, peut-être qu'ils vont le faire, mais je suis quand même assez sceptique. Hein.
Oui, bonjour. En fait, il y a un truc que j'ai pas très bien compris, c'est que vous dites, enfin, vous introduisez en disant que l'image de l'ingénieur a changé, que c'est plus l'ingénieur héroïque, etc., et que dans la société, le lien entre technique et progrès est mis en question.
Oui.
Et à la fin, vous pouvez... Oui, en disant, bon, il y a encore l'espoir que, en fait, quand il y a de l'innovation, il y a des sorts et des progrès. Mais pour moi, en fait, la question principale, c'était plutôt, est-ce que l'ingénieur peut encore inventer l'avenir seul ? Enfin, parce que pour moi, en fait, c'est la question de la sociologie, etc., qu'on ne peut plus innover, on ne peut plus faire du progrès que par la technique, mais aussi par la sociologie, etc., par le dialogue. Et que, par exemple, enfin, l'exemple de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est un bon exemple en disant que, bon, bah, il faut savoir communiquer, il faut avoir du dialogue. Ah, oui, pardon. Il faut avoir du dialogue et que, ça fait vrai.
Mais c'est une bonne remarque. Hein. Moi, bon, je crois que vous avez assez bien résumé ce que j'essaye de dire, malgré tout. C'est, ça ne peut plus être le même progrès. Avant, on prenait le progrès, j'invente une machine, c'est bien, en soi. J'invente un nouveau truc, ou je fais un tunnel dans les Pyrénées ou les Alpes, c'est vachement bien, parce que c'est l'avenir et tout. Aujourd'hui, on va vous dire pourquoi le tunnel. Il faut convaincre. Et on va vous dire, oui, mais il y a les ours, ou il y a la population locale de crapauds qui n'est pas d'accord. Non, mais je blague pas complètement. C'est un truc que vous allez rencontrer concrètement si vous faites du génie civil. Vous avez un très beau projet d'autoroute et puis il y a un crapaud endémique à la région et qui n'est pas forcément enthousiaste à propos de l'autoroute. Et vous allez avoir des avocats du crapaud qui vont vraiment vous emmerder. Et ils n'ont pas forcément tort. Je veux dire, je crois que vous avez bien résumé le truc. Le progrès aujourd'hui, c'est un progrès qui se discute. Alors, c'est pas pour tomber dans l'irrationaliste. Je ne fais pas partie des irrationalistes qui pensent que la discussion, si pas à la fin tout le monde pense que les vaccins, c'est pas bien, alors qu'on soit clair, je fais partie des gens vaccinés et très militants sur ces questions-là. Mais je pense quand même que, par exemple, prenez les vaccins, c'est typiquement quelque chose dans lequel on s'y est pris comme des manches, du point de vue de la conversation sociale. Il y a quand même quelque chose. Et pourquoi on s'y est pris comme des manches ? Parce que les médecins, ce que j'ai dit des ingénieurs, est aussi assez valable sur des médecins. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus, parce qu'on a une blouse blanche ou une calculatrice, enfin un téléphone qui calcule, dire « moi je sais, vous, vous ne savez pas ». Alors, même si, en fait, vous continuez à savoir beaucoup plus de choses que le quidam. Si vous voulez, je pense que la division sociale du travail, moi je me souviens des fois j'ai des étudiants en Amérique notamment qui me disent, ah, même, vous savez vachement de trucs, mais je leur dis, je suis payé pour ça, hein. C'est normal, je veux dire, un médecin il sait aussi plus de choses que vous dans son domaine, mais s'il n'accepte pas de discuter, et parfois aussi d'avoir tort quand même, parce que vous pouvez avoir la meilleure technologie, mais si les gens n'acceptent pas, ça ne sert à rien. Donc c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que le progrès, il faut continuer à y croire, tout en sachant qu'il se discute. Voilà.
En fait, juste, est-ce que le plus important, c'est le progrès social, enfin, le progrès de la communication, ou le progrès de l'innovation ?
Bah, écoutez, Bah, je les sépare pas complètement, parce que si vous voulez, la crise environnementale va quand même dans le mur, pour des raisons très physiques, hein. Y a trop de CO2 dans l'atmosphère, etc. On va quand même dans le mur, pour des raisons qui ne sont pas uniquement sociétales. Alors c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles on ne résout pas, la guerre en Ukraine n'est pas soluble dans la sociologie, hein, c'est clair. Si vous voulez, je crois forcément dans mon domaine, je crois aux sciences sociales, mais il y a quand même un moment où il faut, si vous voulez, ou alors vous pensez que vous allez réorganiser l'humanité comme une fourmilière industrieuse et frugale, mais pour l'instant, la réorganisation de l'humanité n'est pas flagrante, hein, en dépit. Donc il va falloir trouver d'autres moyens.
Vous avez parlé de la nécessité de faire advenir l'innovation. En tout cas, le fait qu'il y avait une nécessité d'innovation. Je voulais parler du rôle de l'État. Est-ce que vous pensez, par exemple, que l'État, pour faire advenir la transition, devrait, par exemple, engager, je ne sais pas, une politique de nouveaux travaux ou en tout cas, de faire advenir au forceps avec, par exemple, un grand élan national ou...
D'accord. Un grand élan national, donc toutes les nécessités de changement et de conciliation à la fois du rôle de l'ingénieur historique et d'une communication nouvelle aujourd'hui.
La notion de grand élan national, ça fait toujours un peu peur, mais je dirais sur le fond, là où vous avez raison, c'est qu'une des questions qui se pose un peu partout dans le monde aujourd'hui, c'est la question du rééquilibrage public-privé, loi du marché, planification. Ces questions-là, elles se posent un peu partout. Quand aux États-Unis, par exemple, on a relancé la question des infrastructures, c'est une question qui se pose quand même un peu. Quand au Royaume-Uni, les chemins de fer ont commencé à aller à volo après leur privatisation, cette question s'est posée. Elle se pose en France aussi. C'est pas, je pense que c'est une des grandes questions. Alors, est-ce que ce que je pense, moi, je pense que c'est une question. Je pense que c'est une question dont il va falloir débattre. Ça, c'est typiquement parce que, bon, vous prenez M. Xi en Chine. Alors, lui, c'est quand même très clair. C'est une réétatisation à grande vitesse. Donc, ça, c'est un choix extrêmement clair. Vous prenez Singapour, c'est une ville dans laquelle cette ville-État a quand même des prérogatives, notamment en matière de planification technique. Bon, mais tout, peut-être qu'il y a une diversité de modèles et qu'il faut choisir son modèle, etc. En tout cas, c'est une question qui est posée aujourd'hui. C'est très clair, par exemple, que dans l'affrontement idéologique Chine versus Occident, la question de l'État joue quand même un rôle. C'est des questions qui se posent. J'ai franchement pas la réponse, sinon je serais beaucoup plus riche que ce que je suis, mais je pense que c'est une des questions qui va se poser, avec quand même sur fond en France d'une crise de l'État depuis quand même plusieurs décennies, qui est quand même, dont on commence à voir les résultats aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vrai que l'État est parti un peu en déshérence dans toute une série de secteurs, on commence à mesurer les conséquences. Alors peut-être que c'est ce qu'on voulait. En tout cas, bon, ça renvoie à une chose aussi, c'est que, au-delà de la figure de l'ingénieur, dans quelle société voulez-vous vivre ? D'une certaine façon, mon discours, c'est aussi de dire qu'un ingénieur, aujourd'hui, il n'est pas au-dessus de la société, il est dans la société, c'est un citoyen, et il doit débattre avec les autres du monde dans lequel il veut vivre.
Je voudrais revenir sur, le changement du métier d'ingénieur qui se transforme de plus en plus pour réfléchir à l'impact environnemental. Vous avez parlé des passages de poissons dans les barrages.
Ouais, les échelles à poissons, ouais.
Est-ce que vous pensez pas que ça, c'est un petit peu un délire d'Européens, puisque de toute façon, en Europe, on est arrivé à une sorte de satiété, on a une population qui commence à décroître, et qu'en fait, c'est un impact assez minime par rapport à des pays qui n'en ont un peu rien à faire de ces questions. Je pense à la Chine, l'Inde, par exemple, puisque leur population est croissante, et ce qui les intéresse, eux, c'est le progrès que nous, on a déjà réalisé et qu'eux, ils sont à peine en train de commencer?
Bah, oui et non. Je dirais, de toute façon, vous savez, un des principes de base de la morale, c'est pas parce que les autres font pas exactement ce qu'il faudrait faire que nous, on doit faire n'importe quoi. Si vous voulez, les problèmes des autres n'excusent pas votre comportement. Il y a quand même un problème, et je dirais au contraire, nous, étant donné notre niveau de richesse, etc., on devrait plutôt essayer de donner l'exemple. Ce que j'ai derrière ça va quand même au-delà du fait de sauver les poissons et les crapauds. C'est de penser réellement avec la nature. J'ai essayé, il y a autrefois, de convaincre que dans cette école, les sciences de la vie devaient être aussi présentes que la mécanique et la physique. J'ai échoué à l'époque, mais je continue à penser très fermement que l'avenir de l'école des ponts, il est vraiment dans la pensée de cette hybridation entre la pensée des objets artificiels et la pensée des milieux naturels. Alors ensuite, que la Chine ait des problèmes gratinés et que l'Inde en ait encore plus, ça c'est sûr. Qu'en Inde, on continue à brûler des sacs plastiques, les miséreux sans logis l'hiver à Delhi brûlent des sacs plastiques, ça fait de très jolies lumières vertes et une pollution absolument insensée. Oui, bon, mais vous avez beaucoup de gens sur la planète qui n'ont pas le choix. Cela dit, si vous regardez qui a produit du CO2 au cours des dernières décennies, reprenez par exemple l'Afrique, c'est pas les Africains, hein, donc il faut quand même aussi balayer devant notre porte. Hein. Alors d'accord, on adore dire, par exemple les Américains pour se dédouaner adorent ces chiffres comme quoi la Chine en 3 ans a à peu près coulé autant de béton que l'Amérique en 1 siècle, ce qui est vrai, mais c'est pas non plus une excuse, si vous voulez. Donc je pense qu'il faut au contraire essayer de donner un peu l'exemple. Sur ces questions, sans tomber dans le fétichisme absolu. Je préfère encore les humains aux crapauds. Mais malgré tout, le problème, c'est qu'on ne va pas survivre très longtemps en tant d'espèces si on continue à décimer la planète à ce régime.
Moi, je voulais juste savoir dans quel cadre géographique vous vous placez précisément, parce que ce que vous avez dit, par exemple, sur les métiers d'ingénieur, qu'il s'agit plutôt de réaménager plutôt que de reconstruire, ça, c'est vrai peut-être... À Paris, peut-être un peu moins en Provence, hein, en province, et encore moins en Afrique, par exemple, puisque l'Afrique, c'est en train de faire une transition démographique, donc il va falloir construire massivement, je pense. Donc c'est peut-être là qu'il y a l'avenir.
Je suis d'accord. La collègue, je ne fais pas partie des gens, c'est la discussion que j'ai eue inlassablement avec ma chère collègue, qui s'appelle Charlotte Malter-Barthes, qui est maintenant à l'EPFL. Qui a été 2 ans à Harvard, c'est exactement ce que je dis à la chère Charlotte en lui disant, bon, oui, en Afrique, il va falloir loger des populations qui vont exploser. Je dirais que ce qui est quand même clair, c'est que réaménager, je dirais globalement, l'Europe de l'Ouest, c'est quand même une zone du monde dans laquelle on a des besoins de construction relativement modestes. L'Amérique du Nord, c'est plus tangent, mais quand même, là aussi, c'est pas un des domaines les plus hauts. C'est vrai que l'Afrique, qui va avoir une population en complète explosion, ça s'applique pas. Ce qui s'applique, par contre, ça va être quand même d'essayer de négocier avec le climat, avec etc. Et peut-être aussi de sortir, il faut aussi que l'Afrique à son tour, mais elle a commencé. L'Afrique, elle est impactée, ça va être un des continents les plus impactés par le changement climatique. Donc, si vous voulez, la nécessité de sortir du discours héroïque sur la conquête de la planète, l'Inde, c'est pareil. L'Inde du Nord va être voisin de l'inhabitable pendant des semaines entières vers 2050. Donc, ça va être compliqué. Et sans parler, alors, bon, je voulais pas vous déprimer, mais les problèmes de migration de population sont devant nous.
Bonjour. Vous avez parlé d'innovation donc scientifique qui était nécessaire. Vous avez parlé de découvertes scientifiques sérieuses pour pouvoir s'en sortir. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, il y a déjà assez qui est fait? C'est-à-dire qu'on emploie les moyens nécessaires, je pense par exemple à la recherche fondamentale, ces choses-là, pour trouver ce genre de solution révolutionnaire.
Ça, honnêtement, j'en sais rien. Il y a quand même des trucs, je ne sais pas. Je veux dire,
les moyens, est-ce qu'il y a assez de moyens? On le saura si on trouve quelque chose. Il y avait assez de moyens. Si vous voulez, le seul truc qui m'a rendu un peu optimiste ces derniers mois, parce qu'on peut pas dire quand même qu'en général quand on écoute les news, on se pâme d'optimisme, c'est le truc des vaccins. Parce que souvenez-vous, au début de la pandémie, on disait, oulala, le vaccin, 10 ans pour le développement du vaccin. Grosso modo, on l'a fait en un an. Donc, ce que j'espère, quand même, c'est que, bon, quand déjà on voit les prévisions sur 2050, les prévisions climatiques, on se dit quand même, ça va peut-être se réveiller. Ça va peut-être se réveiller parce qu'on va commencer à le mesurer de plus en plus. Avec d'ailleurs des effets très étonnants. En Amérique, par exemple, où vous avez le Parti républicain qui très souvent encore nie la réalité du changement climatique, les gars à Miami, qui sont des républicains, sont quand même en train de commanditer étude sur étude pour savoir comment faire avec la montée des eaux. Donc, si vous voulez, il y a le discours officiel, mais il y a quand même... les gens se réveillent, hein, quand même. Donc, il faut espérer. Moi, si vous voulez, l'avantage que j'ai sur vous, enfin, avantage très relatif, c'est que moi, je suis assez cool sur ce qui va se passer après 2050. Hein. Enfin, ça m'embête un peu pour mes enfants, éventuellement un jour les petits-enfants, donc ça, forcément, je suis solidaire, intergénérationnel, blabla. Ok, mais c'est vrai que, bon, quand on me dit en 2050, les vieillards vont avoir très chaud, bon, en plus, j'ai une baraque en Normandie, donc ça va. J'ai regardé la dernière carte de l'INSEE, jaune clair, pas rouge vif, donc c'est good. Mais par contre, c'est un désert médical, donc en cas de crise cardiaque, vous êtes très mal barré. Bon, mais bon, faut espérer quand même qu'après cet été et après la série de catastrophes en tout genre qui se multiplient, on commence un peu à se réveiller. Mais je dirais, il y a quand même un problème, là où je pense que c'est pas assez encore, c'est que, alors, problème très concret, par exemple, en école d'architecture, quand on essaye de trouver des gens compétents pour parler du développement durable, de l'énergie grise, etc., on trouve pas grand monde. Bien sûr, j'ai été dans des comités de recrutement plusieurs fois. On pense qu'on va trouver des gens, mais il n'y en a pas tant que ça. Des gens au-delà de l'effet blabla, enfin comme ce que je fais, bon ça c'est bon. Mais des gens qui réellement, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore là. Il faut former plus de gens, il faut développer la recherche, probablement, je pense quand même.
J'avais juste une question. Oui. Est-ce que, enfin, ça fait quand même plusieurs années, voire plusieurs décennies, qu'il y a des lanceurs d'alerte à propos de l'environnement, ouais, que tout le monde fait, essaye de faire quelque chose, et on a quand même cette impression qu'il n'y a pas de mouvement général pour faire changer les choses, et on entend beaucoup parler que ça va être à nous de faire les choses, à nous de tout changer, mais il y a un moment, est-ce que vous pensez que on aura les moyens de le faire, puisque on nous dit il faut, mais j'ai l'impression qu'on n'a aucun moyen à notre disposition et que certes il faut tout réinventer, mais c'est comme si on devait repartir de zéro avec quand même un bagage qui n'est pas le nôtre. Enfin,
Ouais, mais là vous êtes mal barré, c'est vrai. Hein, nous on a ça, nous on a pollué, on s'est pas gêné, les baby boomers. Je dirais que vous n'avez pas le choix. Pour simplifier, déjà, vous n'avez pas le choix. Deuxièmement, ouais, ça fait des décennies, je dirais que c'est même plus tragique que ça, parce que les premiers, le rapport Meadows, c'est 1960, le premier rapport sur les limites de la croissance, c'est 1972. Donc, je ne sais pas si vous rencontrez, c'était 5-12, ça fait plus de 50 ans qu'on sait quand même qu'il y a des problèmes qui se profilent, et là... Moi, le truc qui m'incite à un relatif optimisme, c'est que je dirais qu'on commence enfin à mesurer concrètement les effets du changement climatique. Mais je pense, bon, toujours Michel qui adore l'évolutionnisme, on a le cerveau qui est programmé pour réagir, ça date d'il y a très longtemps, on réagit très bien et très vite aux menaces immédiates. Et beaucoup plus mal à des trucs qui paraissent abstraits. De la même façon aussi, si vous voyez une petite fille qui se noie, vous avez envie de la sauver. Si on vous parle de 3 millions de petites filles au Pakistan, vous en foutez. On a le cerveau qui est programmé pour gérer un certain nombre de choses, mais pas, Donc les échelles sont problématiques. Les échelles de temps, les échelles aussi de la sociabilité humaine, c'est-à-dire qu'on est capable de se projeter sur un nombre limité de cas, etc. Par contre, je pense que le fait que c'est en train de nous arriver directement dans la gueule, là, c'est quand même en train de changer. Enfin, je pense que cet été ne va pas suffire encore à convaincre les derniers fans du diesel qu'il faut peut-être se poser des questions. Mais là aussi, il faut peut-être se dire on ne va pas se débarrasser des moteurs thermiques tout de suite. N'en déplaise à Hidalgo, etc. Ça ne va pas se passer comme ça. Mais par contre, il faut se dire que oui, le problème est sérieux. Que problème aussi, probablement, avant de refroidir la planète, il va déjà falloir la réaménager pour qu'elle soit vivable. Moi, je pense que dans un premier temps, le boulot le plus urgent, ça va être, parce qu'on ne va pas être dans les 2 degrés de réchauffement en 2100. Vous direz, 2100, vous êtes aussi assez mal barré pour l'instant, sauf si vos télomères, on arrive à les réparer plus facilement. Mais globalement, 2100, c'est vos enfants. Mais clairement, il faut trouver des moyens d'habiter cette planète dans des conditions qu'on n'a jamais connues. Ça, c'est la tâche numéro un. Ensuite, la refroidir. Alors, vous avez les gens qui pensent au geoengineering, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, ce truc-là, mais pour l'instant, ça, c'est quand même un peu comme jouer avec les bombes atomiques. C'est un peu dangereux. Mais c'est des questions qu'il va falloir se poser. Si on veut réellement refroidir la planète et pas à l'échelle de siècles, il va falloir se poser des questions. Alors là, voilà.
J'ai une question sur l'évolution du métier d'ingénieur dont oui. Vous avez un peu parlé. C'était sur le principe que vous avez évoqué que même dans la recherche d'optimisation, que même si on arrive à optimiser le bilan carbone d'un objet à l'échelle individuelle, mais au final, ça va créer une augmentation du nombre d'usages, ce qui, in fine, va avoir un effet complètement négatif sur l'environnement. Donc, je me dis, si en recherchant l'optimisation, au final, on fait pire que mieux, c'est quoi le sens de continuer à chercher à optimiser les produits et les objets actuels?
Je relativiserai quand même, parce que la croissance, par exemple, de l'usage des automobiles n'est pas liée au fait qu'elles sont plus efficientes qu'il y a 20-30 ans. Je dirais, une autre façon de raisonner serait de dire, si j'ai rien inventé qui rendait l'objet plus efficace environnementalement parlant, eh ben, la catastrophe sera encore pire.
Mais
si, je sais bien que les économistes adorent les biens dont, je dirais, la performance en fait augmente l'usage, mais où le prix décroissant augmente l'usage, mais malgré tout, on est plutôt dans un monde actuellement. Je pense aussi que, bon, un des trucs qui m'avait frappé dans la lecture du dernier bouquin de Pierre Veltz, un ancien de la maison, sur la question de la durabilité, c'était la nécessité de déshabiller un peu les fonctions des objets techniques. Et vous avez des smartphones aujourd'hui qui ont presque trop de fonctions. Et du coup, d'ailleurs aussi, plus ils ont de fonctions, plus ça augmente leur obsolescence. Il va peut-être falloir déshabiller, ça j'y crois, c'est qu'il va peut-être falloir déshabiller un peu les fonctions d'un certain nombre de nos objets techniques pour les rendre plus solides, plus durables et peut-être moins consommateurs de toute une série de ressources. Il n'est pas, après tout, invraisemblable d'imaginer un avenir dans lequel, au lieu de changer tous les 3-4 ans de téléphone portable, on change tous les 8 ans, etc. C'est pas la course à l'obsolescence dans le numérique, par exemple. Il va falloir se poser des questions. Alors ça, c'est des questions. Mais ça pose des questions d'innovation. Ça veut dire aussi repenser complètement le téléphone portable et pas uniquement en fonction de la quantité d'applications et est-ce qu'il fait les milkshakes et est-ce que, etc. Ça veut dire repenser les objets techniques. Peut-être qu'aussi, une des pistes de l'innovation, ça consiste aussi à déshabiller parfois, de façon intelligente, les systèmes techniques.
Mais justement, est-ce que ça n'a pas aussi... Il n'y a pas un effet de déculpabilisation qui peut apparaître, justement, comme le téléphone polluerait deux fois moins. Donc, pourquoi est-ce que ça ne produit pas une déculpabilisation?
Oui, c'est vrai, mais c'est toujours mieux de déculpabiliser pour de bonnes raisons que de continuer à culpabiliser et de rien faire.
Non, mais et que justement, ça mène comme ça pollue deux fois moins, bah, du coup, bah, on le change deux fois plus souvent, au contraire, et que ça fasse
oui,
ça.
Oui, mais c'est quoi l'alternative? On jette tous les téléphones à la poubelle?
Je ne sais pas, je me pose la question, justement.
Ah, si vous voulez, moi je trouve que le paradoxe actuel, je suis peut-être plus sensible à l'absurdité. Vous savez comment elle s'appelle déjà, la jeune Suédoise, là hein? Voilà, Greta Thunberg. Le coup, si vous voulez, elle vient en bateau et ensuite l'équipe reprend l'avion, si vous voulez, m'avait quand même beaucoup frappé. Je pense qu'il y a un moment... Moi, je dirais, je trouve qu'il faut quand même être un peu plus, des fois... Si vous voulez, si on commence à penser avec des coups de billard à 8 coups, ou peut-être dans les parties d'échecs, c'est bien, mais je pense que dans l'immédiat, il y a quand même un truc immédiat, c'est qu'il faut diminuer les consommations d'un certain nombre de trucs. Votre téléphone portable, vous avez un téléphone, un smartphone ou pas? Qui n'a pas de smartphone parmi vous? Ah ouais, bon. Votre smartphone consomme à peu près, enfin c'était même il y a quelques années, à peu près l'équivalent d'un frigo dans l'année. Donc c'est comme si vous avez un réfrigérateur dans votre poche, en consommation énergétique, etc. Donc je maintiens quand même que si on diminue un peu quand même la consommation de ce genre d'engin, en soi c'est un mieux. Parce que de toute façon, si vous voulez, la pénétration des smartphones sur la planète est à peu près totale, même en Inde. C'est en train de monter extrêmement rapidement. Donc si on diminue globalement, et peut-être qu'on déshabille un peu les fonctions des smartphones, on aura quand même fait un gain. Voilà. Oui ?
Mais vous ne pensez pas que si tout le monde se met à garder son téléphone pendant 10 ans, il va y avoir un problème du côté de l'économie? Enfin, pour la consommation?
Je fais partie des gens qui ne sont pas des anticapitalistes, donc je ne suis pas nulpès, qu'on soit clair. J'ai été ça quand j'avais 20 ans, mais maintenant je suis trop vieux, donc je suis devenu réac, j'ai de la propriété foncière à défendre, comme tout le monde. Donc forcément, je ne les aime pas. Mais, j'assume, hein. Mais je fais quand même partie des gens qui pensent qu'il va falloir sauver le capitalisme lui-même. C'est-à-dire que oui, c'est pas bon pour l'économie, mais il y a un moment où l'économie quand même devient fondamentalement perverse. Et là, je suis assez nupes quand même à penser qu'on peut pas continuer comme ça, à vouloir encourager une consommation débridée de trucs qui sont un désastre pour l'environnement, et en se disant qu'il n'y a pas de problème. Il y a un moment quand même, ça va faire mal à l'économie. Un peu. Les majors, si vous voulez, je suis très Apple, j'ai à peu près toute la gamme, et la watch qui est censée me prévenir quand je vais mourir, enfin, etc. Toutes les conneries. Bon, mais il y a un moment quand même, peut-être qu'il faut arrêter. Je dirais, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il va falloir s'arrêter, tôt ou tard. Il va falloir mettre le frein, et oui, je pense que je ne fais pas partie des gens qui pensent que demain on va, etc., mais je pense qu'il y a quand même des lendemains qui vont être quand même un peu différents d'aujourd'hui. C'est comme la frugalité, je ne suis pas dans un discours de la totale frugalité où tout doit être low-tech, mais il y a quand même des choix qui vont devenir nécessaires. On consomme une quantité de piles, par exemple, absolument monstrueuse. Prenez dans votre vie quotidienne, là, le AA et le AAA, on en fait une consommation absolument démente, et c'est quand même pas bon du tout. Moi y compris d'ailleurs, je suis pas bon du tout, etc. Il y a des choses, il va falloir faire des choix. Donc oui, ça aura des conséquences sur l'économie, ça aura des conséquences parfois dramatiques sur l'économie. Mais enfin, vous dites que si on fait rien, les conséquences, de toute façon sur l'économie, quand vous écoutez les économistes eux-mêmes sur le chiffrage, de la catastrophe environnementale, ça a l'air encore d'une autre échelle. Mais oui, ça va avoir des conséquences. C'est quand même clair qu'on ne peut pas continuer, par exemple, dans le numérique, à être dans cette espèce de fuite en avant, comme si ça ne posait pas problème.
On arrive à peu près au terme de ce débat. Donc merci beaucoup, Antoine, pour ta conférence. Merci pour les questions.